Chapitre 4. En vain de la grande crise. Flotte trisolarienne à 4,15 années-lumière du système solaire. Rey Diaz et Heinz furent réveillés en même temps de leur hibernation. On les informa que la technologie qu'ils attendaient était prête. « Déjà ?» s'exclamèrent-ils de concert lorsqu'on leur dit que 8 années seulement s'étaient écoulées. Ils apprirent qu'en raison d'investissements sans précédent, la technologie des supercalculateurs avait en effet connu des avancées remarquables ces dernières années. Mais on ne pouvait pas faire preuve d'optimisme sur tous les plans. L'humanité était simplement lancée dans une course-poursuite pour tenter de combler l'immense distance qui la séparait encore de la barrière des intellectrons. Les progrès effectués n'étaient que technologiques. Les sciences physiques étaient pour leur part toujours aussi figées qu'un étang d'eau stagnante, tandis que le réservoir de théorie était presque épuisé. Le progrès technologique commencerait par ralentir, puis serait bientôt à l'arrêt total. Mais pour l'heure, on ignorait encore quand l'humanité toucherait sa limite de développement. Heinz traîna ses jambes encore raidies par l'hibernation jusqu'à un bâtiment dont l'architecture extérieure évoquait un stade. L'intérieur était nimbé d'une nappe de vapeur blanche, bien qu'il s'y sentît au sec. Il ne parvint pas à identifier l'origine de ce phénomène. Les doux rayons du clair de lune faisaient chatoyer la brume, clairsemée jusqu'à hauteur d'homme, mais très épaisse au-dessus, si bien qu'on ne discernait pas le plafond de l'édifice. À travers ce brouillard, il entrevit une silhouette grêle et reconnut aussitôt son épouse, Keiko Yamasugi. Il se rua vers elle comme s'il chassait un spectre, mais tous deux finirent bel et bien par tomber dans les bras l'un de l'autre. « Pardonne-moi, mon chéri, j'ai vieilli de 8 ans, glissa-t-elle. « Même comme ça, tu as toujours 1 an de moins que moi, dit-il en la détaillant et en constatant que le temps ne semblait pas avoir laissé de traces sur son visage. Dans cette clarté vaporeuse, elle paraissait pourtant pâle et fragile. Elle, la brume, le clair de lune, tout cela rappelait à Heinz cette nuit dans le bosquet de bambou de leur maison japonaise. « Est-ce que nous n'étions pas convenus que tu entrerais en hibernation 2 ans après moi ? Pourquoi avoir attendu tout ce temps ? Au début, c'était simplement pour faire quelques préparatifs en vue du travail qui nous attendrait après notre réveil, mais il y avait tant à faire que j'ai continué, expliqua-t-elle en écartant une mèche de cheveux sur son front. « Était-ce si difficile ? Vraiment très difficile. Peu de temps après le début de ton hibernation, 6 nouveaux programmes de recherche sur un supercalculateur de nouvelle génération ont été lancés au même moment. 3 employant une architecture traditionnelle, 1 utilisant une architecture de type non von Neumann et 2 autres adoptant respectivement une approche quantique et biomoléculaire. À peine 2 ans plus tard, les responsables scientifiques de ces 6 programmes m'ont fait savoir que la puissance de calcul dont nous avions besoin était inatteignable. Le projet de supercalculateur quantique a été le premier à être interrompu, car les théories physiques actuelles ne permettent pas d'étayer cette recherche. Il s'est heurté au mur des intellectrons. Très vite, c'est le programme de recherche sur le supercalculateur biomoléculaire qui a été abandonné. Ils ont soutenu que c'était une illusion. Puis ça a enfin été le tour du projet d'un supercalculateur à l'architecture de type non von Neumann. Ils m'ont expliqué que le cerveau humain qui serait simulé par cette structure serait comme un œuf destiné à ne jamais éclore. Les 3 autres programmes adoptant une architecture traditionnelle ont continué, mais pendant un certain temps, ils n'ont connu aucune avancée. Je vois. J'aurais dû rester à tes côtés tout ce temps. Ça n'aurait servi à rien, tu n'aurais fait que gaspiller 8 années de ta vie. Ce n'est que récemment, alors que nous étions vraiment découragés, que nous avons eu une idée folle. Simuler le cerveau humain à l'aide d'une méthode très primitive.
Laquelle ?
Coder directement dans les circuits électroniques, ce qui n'était jusque-là que simulé par le logiciel. Chaque microprocesseur tiendrait le rôle d'un neurone et, ensemble, ces microprocesseurs formeraient un réseau interconnecté capable de se réorganiser dynamiquement. Heinz dut réfléchir quelques instants avant de comprendre ce que laissait entendre Keiko. « Tu veux dire fabriquer 100 milliards de ce genre de microprocesseurs ?» Elle hocha la tête. « C'est À peu près la somme totale de tous les microprocesseurs jamais produits dans toute l'histoire de l'humanité. Je n'ai pas les chiffres, mais c'est probablement encore plus. Même si tu réussissais à réunir autant de puces, combien de temps cela prendrait-il pour les connecter ? Je savais bien que c'était impossible, lui répondit-elle avec un sourire là. C'était simplement une idée désespérée. Mais nous y avons vraiment réfléchi à l'époque, et nous avons commencé à en fabriquer autant que nous pouvions. Elle désigna alors l'endroit où il se trouvait. « Regarde, tu te trouves ici dans un des 30 ateliers d'assemblage de cerveaux virtuels que nous avions envisagés. Mais seul celui-ci a été construit. J'aurais vraiment dû rester avec toi, » s'émut une nouvelle fois Heinz. « Mais par chance, nous avons fini par obtenir le supercalculateur que nous attendions. Ses performances sont 10 000 fois supérieures à celles du meilleur ordinateur de l'époque où tu es entré en hibernation. »
Avec une architecture traditionnelle ?
Avec une architecture traditionnelle. Toute la communauté scientifique a été stupéfaite que l'on puisse encore presser autant de jus dans le citron de la loi Moore. Mais cette fois, mon chéri, nous sommes arrivés au bout.
Un ordinateur inouï. Si l'humanité venait à échouer, il ne serait jamais égalé, pensa Heinz, mais il ne le dit pas à haute voix.
Avec ce supercalculateur, il est devenu plus facile de développer notre projet de caméra analytique. Mon chéri, peux-tu imaginer ce que représentent 100 milliards ?
Demanda soudain Keiko Yamasugi, et, voyant que son époux secouait la tête, elle sourit et allongea les bras en lui montrant les quatre directions.
Voilà ce que c'est, 100 milliards.
Comment ça ? Demanda Heinz, perplexe, en regardant la brume blanche autour de lui.
Nous sommes maintenant au milieu de l'écran holographique de ce supercalculateur, dit-elle, en manipulant avec la main un petit gadget suspendu à sa poitrine.
Heinz remarqua une molette sur l'objet. C'était peut-être une sorte de souris informatique. Au même instant, il sentit qu'un changement s'était produit dans la brume blanche qui les enveloppait. Elle s'était épaissie. C'était manifestement l'agrandissement d'une zone particulière. Il s'aperçut alors que ce qu'il avait jusque-là cru être de la brume était en réalité un agglomérat d'une quantité innombrable de petites particules, et que la clarté de l'une ne provenait pas d'une source de lumière externe, mais était émise par les particules elles-mêmes. Tandis que l'agrandissement se poursuivait, les particules devinrent des étoiles scintillantes, mais, davantage que la vision d'un ciel étoilé au-dessus de la Terre, Heinz eut l'impression de se trouver au cœur de la Voie lactée, où la densité des étoiles ne laisse presque aucune place pour l'obscurité.
« Chaque étoile est un neurone », expliqua Keiko.
Cette galaxie de 100 milliards d'étoiles recouvrait leur corps d'une fine pellicule d'argent. L'hologramme continuait à s'élargir, et Heinz voyait maintenant qu'une multitude de fins tentacules s'étendaient depuis chaque petit astre et les connectait en un réseau complexe. L'image de ciel étoilé avait disparu de son esprit. Il se trouvait à présent au milieu d'une toile aux dimensions infinies. L'image s'agrandissait encore et chaque étoile commença à révéler sa propre structure. Heinz reconnut les cellules cérébrales et les terminaisons synaptiques qu'il avait l'habitude de voir à travers un microscope électronique. Keiko cliqua sur la souris et l'image retrouva aussitôt son aspect initial de brume blanche.
Voici une vue complète de la structure cérébrale offerte par la caméra analytique. Elle peut capturer simultanément 3 000 000 de sections dynamiques. Bien entendu, l'image que nous voyons maintenant a déjà été traitée. Pour les besoins de l'observation, la distance entre chaque neurone a été étirée à un ordre de grandeur 4 ou 5 fois supérieur à la réalité. C'est pourquoi ce cerveau donne l'impression d'être un corps gazeux. Cependant, la structure topologique des connexions neuronales a été préservée. Passons à présent en vue dynamique.
Des perturbations apparurent dans la brume. Des points éblouissants émergèrent dans le brouillard, comme si on avait saupoudré des flammes d'une poignée de poudre. Keiko Yamasugi augmenta la taille de l'image jusqu'à ce qu'elle ressemble à un ciel étoilé. Heinz vit déferler des vagues d'étoiles dans cet univers cérébral. Des turbulences émergèrent sous différentes formes à divers endroits de cet océan, certaines comme des courants, d'autres comme des tourbillons, d'autres encore comme des marées balayant tout sur leur passage, toutes engagées dans une incessante mutation. Dans ce chaos foisonnant naquirent quelques étonnantes figures structurées. Quand l'image holographique fut une nouvelle fois agrandie en mode toile, Heinz vit une myriade de signaux nerveux occupés à convoyer des messages le long des fines terminaisons synaptiques, comme des perles clignotantes ruisselant sur un lacis de fil. « À qui est ce cerveau ?» demanda Heinz en poussant un soupir d'admiration. « C'est le mien, » répondit Keiko en le regardant tendrement. « Quand ce tableau mental apparaît, c'est que je pense à toi. » Veuillez faire attention. Quand le voyant passera au vert, vous verrez s'afficher la 6e épreuve du test. Si les propositions sont correctes, pressez le bouton à votre droite. Si elles sont fausses, pressez le bouton à votre gauche. Proposition 1. Le charbon est de couleur noire. Proposition 2. 1 plus 1 égale 2. Proposition 3. Les températures en hiver sont plus basses qu'en été. Proposition 4. Les hommes sont en moyenne plus petits que les femmes. Proposition 5. Une ligne droite est le plus court chemin entre deux points. Proposition 6. La lune émet plus de lumière que le soleil. Ces affirmations apparaissaient l'une après l'autre sur le petit écran devant les yeux du candidat. Elles ne s'affichaient que pour une durée de 4 secondes, puis le candidat devait presser sur le bouton de gauche ou de droite correspondant à la réponse. Sa tête était couverte d'un casque en métal, tandis que la caméra analytique scannait une image holographique de son cerveau que le supercalculateur traitait en un modèle interconnecté dynamique susceptible d'être analysé. Les recherches de Heinz sur la pensée n'en étaient qu'à leur étape initiale. Le candidat n'avait pas besoin de recourir à des jugements complexes, car les propositions étaient extrêmement concises et impliquaient des réponses évidentes. Au cours de ces pensées simples, le mécanisme de fonctionnement du réseau neuronal était relativement facile à identifier. Il constituait le point d'entrée vers une recherche approfondie à venir sur la nature même de la pensée. L'équipe de recherche dirigée par Bill Heinz et Keiko Yamasugi avait déjà réalisé quelques avancées. Elle avait découvert qu'un jugement critique ne se produisait pas dans une zone précise du réseau neuronal cérébral, mais qu'il utilisait un mode particulier de transmission d'impulsions nerveuses. À l'aide du supercalculateur, ce mode de transmission pouvait être identifié et localisé dans le vaste réseau de neurones. C'était, toute proportion gardée, une méthode similaire à celle qu'avait utilisée l'astronome Abbot Ringer pour Luoji lorsqu'il avait dû localiser une étoile particulière de la Voie lactée. Mais dans le cosmos cérébral, ce genre de figure était dynamique et ne pouvait être identifié que grâce à ses caractéristiques mathématiques. C'était un peu comme chercher un mini-tourbillon au milieu d'un immense océan. La somme des calculs nécessaires était bien supérieure à ceux utilisés par Ringer, et seul ce tout récent supercalculateur en avait les capacités. Heinz et son épouse déambulaient dans la carte nébuleuse du cerveau qui s'affichait sur l'écran holographique. Chaque fois qu'un jugement critique était identifié dans le cerveau du candidat, l'ordinateur indiquait sa position grâce à une lumière rouge clignotante. Cet outil était juste là pour le plaisir des yeux et ne servait pas spécialement les besoins de l'étude. Le plus important était l'analyse de la structure interne de l'impulsion nerveuse provoquée par la pensée, car c'était là que se cachaient les mystères de la nature de l'esprit. Soudain, le directeur médical de l'équipe de recherche arriva en hâte en disant que quelque chose était arrivé au candidat numéro 104. Au tout début du développement de la caméra analytique, le scan simultané d'un si grand nombre de sections générait de puissantes radiations qui pouvaient avoir des conséquences mortelles pour toute créature vivante analysée. Mais, après une série d'améliorations, l'intensité des radiations était redescendue en dessous de la ligne de sécurité, et un grand nombre de tests avaient montré que, tant que l'on ne dépassait pas une durée précise, la caméra analytique n'avait absolument aucun effet secondaire néfaste sur le cerveau. Il semble avoir développé une hydrophobie, expliqua le directeur médical tout en courant sur le chemin du centre de soins. Heinz et Keiko arrêtèrent leur course, surpris. Heinz fixa le directeur. Une hydrophobie? A-t-il attrapé la rage? Le directeur leva une main en l'air et s'efforça de mettre de l'ordre dans ses pensées.
Oh, je vous prie de m'excuser, je n'ai pas été assez précis. Il ne présente absolument aucun problème sur le plan physiologique. Ni son cerveau, ni aucun de ses autres organes n'a subi de dommages, mais il a effectivement peur de l'eau, comme un patient atteint de la rage. Il refuse de boire, il n'ose même pas manger d'aliments contenant de l'eau. C'est un effet exclusivement psychologique. Il a l'impression que l'eau est toxique.
Un délire de persécution ? Interrogea Keiko. Le directeur secoua la main.
Non, il ne croit pas que quelqu'un a empoisonné l'eau, mais que l'eau est par nature un poison.
Heinz et son épouse s'arrêtèrent une nouvelle fois, comme stupéfaits. Le directeur secoua encore la tête d'impuissance.
Mais pour ce qui est du reste, il est psychologiquement tout à fait normal. Je ne sais pas comment l'expliquer, il vaut mieux que vous veniez constater par vous-même.
Le candidat numéro 104 était un étudiant d'université volontaire qui participait au test pour se faire un peu d'argent de poche. Avant d'entrer dans la chambre du patient, le directeur médical avertit les deux chercheurs. « Cela fait 2 jours qu'il n'a rien bu. S'il continue comme ça, il va être gravement déshydraté et nous serons contraints de le forcer à s'hydrater par intraveineuse. » Le directeur pointa un four à micro-ondes à l'intérieur de la pièce. « Regardez. » Il y fait cuire son pain et ses autres aliments jusqu'à ce qu'ils soient entièrement secs avant de les manger. Quand les deux scientifiques entrèrent dans la pièce, le candidat numéro 104 les regarda d'un air affolé. Ses lèvres étaient sèches, ses cheveux hirsutes, mais il avait l'air en bonne santé. Il tira la manche de la veste de Heinz et susurra d'une voix rauque.
« Docteur Heinz, ils veulent me tuer, je ne sais pas pourquoi. »
Il pointa de son autre main un verre d'eau posé sur la table de chevet.
« Ils veulent me faire boire de l'eau. »
Heinz jeta un œil sur le verre. Il était certain que le candidat n'avait pas contracté la rage, car les personnes touchées par cette maladie ont des spasmes de terreur à la vue de l'eau. Le bruit d'écoulement d'un liquide les rend fous. Certains ont même des réactions de frayeur intense au simple fait d'évoquer le sujet.
Si l'on se base sur son regard et sa capacité à s'exprimer, il semble être dans un état psychologique tout à fait normal,
glissa Keiko en japonais à Heinz. Elle était titulaire d'une licence de psychologie.
Croyez-vous vraiment que l'eau soit toxique?
Demanda Heinz.
Vous en doutez? Mais c'est aussi vrai que le soleil émet de la lumière et qu'il y a de l'oxygène dans l'atmosphère. Vous n'allez quand même pas, vous non plus, nier cette réalité.
Heinz lui tapa sur l'épaule. Jeune homme, la vie est née dans l'eau, et elle ne pourra jamais exister sans. 70% de votre corps est constitué d'eau.
Le regard du candidat numéro 104 s'assombrit. Il se prit le front entre les mains et s'assit sur le lit.
Oui. Cette question est une torture, c'est la chose la plus incroyable de l'univers.
Je souhaiterais consulter l'historique du test du candidat numéro 104, dit Heinz au directeur médical en sortant de la chambre. Arrivé dans le bureau du directeur, Keiko Yamasugi prit la parole.
Observons d'abord les propositions du test.
Les intitulés s'affichèrent un à un sur l'écran. Proposition 1, les chats ont 3 pattes. Proposition 2, un minéral n'est pas vivant. Proposition 3, le soleil est de forme triangulaire. Proposition 4, de même volume, le fer est plus lourd que le coton. Proposition 5, l'eau est un poison.
Stop, fit Heinz en pointant la 5e proposition.
Il a répondu faux à celle-ci, dit le directeur. Vérifions toutes les manipulations et tous les paramètres postérieurs à cette réponse. L'historique montra qu'après la réponse du candidat à la proposition 5, la caméra analytique avait augmenté l'intensité de son scan au niveau du point précis où était né le jugement du candidat. Afin d'améliorer la précision du scan, les radiations et le champ magnétique avaient été intensifiés dans cette zone. Heinz et Keiko examinèrent minutieusement l'historique des paramètres qui s'affichaient sur l'écran. Avions-nous déjà effectué ce type de scan intense sur d'autres propositions pour d'autres candidats ? Demanda Heinz.
Les résultats n'étant pas très bons, nous l'avons abandonné après 4 tentatives quand nous nous sommes rendus compte qu'il risquait de dépasser les standards de radiation localisée. Les 3 premières,
il consulta son ordinateur et lâcha,
étaient des propositions sans conséquence. Nous devons réutiliser les mêmes paramètres et répéter l'expérience de la proposition 5,
lança Keiko.
Mais qui fera le test ?
Demanda le directeur médical.
Moi, répondit Heinz.
L'eau est un poison. Les mots de la proposition 5 apparurent dans une police noire sur fond blanc. Heinz pressa le bouton faux à sa gauche. Hormis une légère sensation de chaleur ressentie lors du scan intense de la caméra analytique, il n'éprouva rien d'autre. Heinz sortit du laboratoire et, sous l'observation de quelques chercheurs, dont Keiko, il s'assit à une table sur laquelle était posé un verre d'eau fraîche. Heinz s'en saisit et le porta lentement à ses lèvres pour en boire une gorgée. Son geste était calme et son expression tranquille. Le petit groupe de chercheurs commença par pousser un soupir de soulagement, mais très vite, les scientifiques remarquèrent que Heinz se tenait la gorge. La chair de son visage s'était raidie. Il se crispa. Son regard révéla bientôt une peur similaire à celle du candidat numéro 104. Il semblait lutter mentalement avec une force invisible. Pour finir, il recracha toute l'eau contenue dans sa bouche et s'accroupit pour se faire vomir, mais rien ne sortit. Son visage avait viré au violet. Keiko le serra dans ses bras et lui envoya des claques dans le dos. Heinz, qui avait repris quelque peu ses esprits, tendit la main et bredouilla. « Donne-moi des mouchoirs. » Il essuya minutieusement l'eau qui avait giclé sur ses chaussures.
« Mon chéri, crois-tu vraiment que l'eau soit toxique ?»
l'interrogea-t-elle, les yeux pleins de larmes. Elle l'avait conjuré plusieurs fois avant le début du test de changer de proposition, d'en prendre une moins dangereuse, mais Heinz avait refusé. Heinz hocha lentement la tête.
« Oui, c'est ce que je pense. »
Il leva la tête vers le petit groupe, les yeux pleins d'impuissance et de doute.
« Oui, oui, c'est ce que je pense. »«
Laisse-moi te répéter tes propres mots, » lui murmura Keiko en lui attrapant l'épaule. « La vie est née dans l'eau et elle ne pourra jamais exister sans. 70% de ton corps est constitué d'eau. »
Heinz baissa la tête pour regarder les éclaboussures sur le sol, puis il secoua la tête.
« Oui, ma chérie, et cette question est une torture. C'est la chose la plus incroyable de l'univers. »
3 ans après la percée décisive dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée, des objets célestes inhabituels commencèrent peu à peu à apparaître dans le ciel nocturne de la Terre. On pouvait en voir simultanément jusqu'à 5 dans le même hémisphère. La luminosité de ces corps changeait parfois brusquement. Il leur arrivait même d'être plus brillants que Vénus et de scintiller frénétiquement. De temps en temps, une éruption se produisait soudain à l'emplacement d'un des corps et provoquait une augmentation brutale de sa luminosité. Puis il s'éteignait 2 ou 3 secondes plus tard. Il s'agissait de réacteurs de fusion nucléaire effectuant des essais en orbite géosynchrone. Il avait été acté que la future flotte spatiale serait composée de vaisseaux à propulsion radiative sans médium, et des recherches avaient été lancées dans cette direction. Ce type de propulsion nécessitait des réacteurs nucléaires superpuissants dont les essais ne pouvaient être menés que dans l'espace. Situés dans l'espace à une altitude de 30 000 km, ces réacteurs avaient été surnommés « étoiles nucléaires » en raison des rayons qu'ils émettaient. Chaque éruption d'étoiles nucléaires signifiait un échec désastreux. Toutefois, contrairement à ce que croyait la majorité des gens, les éruptions n'étaient pas dues à l'explosion de réacteurs, mais à l'exposition de leur cœur lorsque la coque extérieure fondait sous l'effet de la chaleur de la fusion. Le cœur du réacteur était comme un petit soleil, à côté duquel les matériaux terrestres les plus résistants à la chaleur fondaient comme de la cire. Les fusions devaient donc être contenues par un champ électromagnétique. Toutefois, les échecs étaient fréquents. Sur le balcon du toit du quartier général de l'armée spatiale,
Chang Weizi et Bill Hines venaient d'assister à une telle irruption. Leurs ombres avaient été projetées sur le mur par ce halo lunaire avant de s'évanouir aussitôt. Après Taylor, Hines était le second colmateur que rencontrait Chang Weizi. « C'est déjà la troisième fois ce mois-ci, » grommela l'amiral. Hines observa le ciel nocturne redevenu obscur et dit « La puissance de ces réacteurs ne permet d'atteindre qu'1% de l'énergie requise par les moteurs des futurs vaisseaux spatiaux et on n'arrive toujours pas à les faire fonctionner de façon stable. Même si on parvient un jour à fabriquer des réacteurs satisfaisants, la technologie des moteurs sera encore plus difficile à développer. On se retrouvera confronté aux obstacles dressés par les intellectrons. »
Oui, les intellectrons bloquent toutes les routes possibles.
Les yeux de Chang Weizi regardaient le lointain. L'océan de lumière de la ville paraissait presque plus étincelant encore depuis la disparition de l'étoile nucléaire. La petite lueur d'espoir s'est estompée aussi vite qu'elle est apparue, jusqu'au jour où elle s'éteindra totalement. Comme vous le dites, les intellectrons bloquent toutes les routes.
Docteur Hines, sourit Chang Weizi. Vous n'êtes tout de même pas venu me parler de défaitisme.
C'est au contraire précisément ce dont je souhaite vous parler. La résurgence du défaitisme est différente cette fois. Elle est la conséquence de la baisse soudaine du niveau de vie de la population et son impact est encore plus grand au sein de la spatiale. Chang Weizi détourna son regard du lointain sans rien dire.
Je comprends vos difficultés, amiral, et je souhaite vous aider.
Chang Weizi fixa silencieusement Hines pendant quelques secondes. Il ne réussit pas à sonder son regard impénétrable. Sans répondre à la question du colmateur, il lança. L'évolution du cerveau humain a besoin de 20 000 à 200 000 ans avant que ne se produisent des changements visibles. Et la civilisation humaine n'a derrière elle que 5 000 ans d'histoire. Ce dont nous nous servons par conséquent aujourd'hui est le cerveau d'un homme primitif.
« Docteur, j'admire sincèrement votre projet. C'est peut-être précisément là où nous trouverons une réponse. »«
Merci. Nous sommes tous des pierres à feu. »«
Mais sera-t-il vraiment possible d'accroître les capacités mentales de l'homme grâce à la technologie ?»
À cette question, Hines s'exalta. « Amiral, au moins vous n'êtes pas aussi primitif que les autres. Je note que vous utilisez le terme de capacité mentale et non d'intelligence. » Le premier est bien plus riche que le second. Pour vous donner un exemple, il est impossible de vaincre le défaitisme par l'intelligence. Devant la muraille dressée par les intellectrons, plus vous êtes intelligent, plus il vous est difficile d'avoir foi dans la victoire.
Alors répondez à la question. Est-ce possible?
Hines secoua la tête. Connaissez-vous les travaux que Keiko Yamasugi et moi-même menions avant la crise trisolarienne?
« Je ne suis pas spécialiste. Si je ne me trompe pas, vous avez montré que la nature de la pensée n'était pas moléculaire mais quantique, ce qui signifie que
« que les intellectrons m'attendent », compléta Hines en pointant le ciel, « tout comme nous les attendons aussi. » Mais aujourd'hui, nos recherches sont encore loin de l'objectif que nous nous sommes fixés. Elles ont en revanche donné naissance à un produit dérivé inattendu.
Chang Weizi hocha légèrement la tête, manifestant un intérêt prudent.
Je n'entrerai pas dans les détails. Laissez-moi vous le présenter simplement. Nous avons découvert à l'intérieur du réseau de neurones du cerveau le mécanisme mental de production du jugement. Nous nous sommes par ailleurs aussi rendu compte que nous avions la capacité d'exercer sur lui une influence déterminante. Le processus par lequel le cerveau produit un jugement est comparable à un processus informatique. Dans les deux cas, nous entrons des données issues du monde extérieur, nous procédons à un calcul et nous obtenons un résultat. Grâce à notre découverte, nous sommes maintenant capables de sauter l'étape du calcul et de produire directement le résultat. Lorsqu'une information entre dans le cerveau, elle influence une partie du réseau neuronal. C'est lors de cette étape que nous pouvons agir pour forcer le cerveau à émettre un jugement, à lui faire considérer que cette information est exacte, sans qu'il ait besoin d'y réfléchir.
« Cette expérience a-t-elle déjà été menée ?» demanda Chang Weizi, ne trahissant aucun sentiment.
« Oui, tout a commencé avec un accident, puis nous avons approfondi nos recherches et nous savons à présent comment faire. Nous avons appelé ce procédé poinçonnage mental. Et si ce jugement, ou bien disons cette foi, ne correspond pas à la réalité? Dans ce cas, elle finit par être rejetée, mais c'est un processus très douloureux, car le jugement fabriqué par le poinçonnage mental est particulièrement résistant. Je croyais encore il y a quelque temps que l'eau était toxique. Ce n'est qu'après 2 mois de thérapie que j'ai pu commencer à me remettre à boire de l'eau. Ce processus, ça a été un moment très pénible. Mais la proposition selon laquelle l'eau est un poison est ouvertement fausse. Elle ne peut pas être nuancée. D'autres sentences telles que « Dieu existe » ou bien « L'humanité remportera la guerre » ne possèdent pas de réponse clairement déterminée. Pendant le processus normal au cours duquel s'élaborent ces croyances, la pensée incline dans une direction sous l'effet d'un ensemble de choix qui se présentent à elle. Mais si ces croyances sont inculquées directement par l'intermédiaire du poinçonnage mental, elles deviennent aussi solides que la roche et absolument inébranlables. « C'est un véritable exploit, » dit Chang Weizi avec une mine sérieuse. Je veux dire sur un plan neuroscientifique. Car dans la réalité, docteur Heinz, vous venez de créer quelque chose d'embarrassant, vraiment embarrassant, la chose la plus embarrassante de l'histoire. Ne voudriez-vous pas vous servir de cette technique de poinçonnage mental pour façonner une armée spatiale partageant une foi indéfectible dans la victoire? Au sein de la spatiale, vous avez des commissaires politiques. Nous, nous avons des pasteurs. Le poinçonnage mental n'est après tout qu'un moyen technologique permettant d'accomplir leur travail, mais avec une plus grande efficacité. Le travail idéologique mené par nos commissaires politiques s'appuie sur une pensée rationnelle et scientifique pour établir cette croyance. Mais la foi dans la victoire peut-elle vraiment s'appuyer sur une base rationnelle et scientifique? Si c'est impossible, docteur, je préfère encore diriger une armée n'ayant pas foi dans la victoire que des soldats incapables de penser par eux-mêmes. En dehors de cette croyance précise, le reste de la pensée resterait bien sûr indépendant. Nous ne ferions que procéder à une petite intervention. Notre technologie permettrait de sauter une étape du mécanisme habituel pour implanter dans la conscience une conclusion, une seule et simple conclusion. Une seule conclusion suffit. La technologie est maintenant capable de modifier la pensée aussi facilement qu'un programme informatique. Après ces corrections, les humains seront-ils encore des humains ou des automates? Vous devez avoir lu Orange Mécanique. Un livre édifiant. Amiral, j'avais prévu votre réaction, soupira Heinz. Je poursuivrai mes efforts dans ce domaine, les efforts que se doit de fournir un collimateur. Lors de l'audience suivante des collimateurs au Conseil de défense planétaire, la présentation par Heinz de sa technologie de poinçonnage mental suscita dans l'Assemblée des réactions passionnées sans précédent. Le jugement du représentant américain exprima avec concision ce que pensait la majorité des participants. Grâce à leur talent, les docteurs Heinz et Kamasugi ont ouvert une porte menant droit aux ténèbres. La représentante française quitta son siège et lança avec émotion. Qu'est-ce qui est le plus tragique? Que l'humanité soit privée de son pouvoir et de son droit de penser librement, ou qu'elle perde cette guerre? La seconde réponse, naturellement, riposta aussitôt Heinz en se levant d'un bond. Car dans la première situation, l'humanité aura au moins une chance de regagner un jour sa liberté de penser. Permettez-moi d'avoir des doutes sur l'utilisation de cette technologie. Regardez-vous donc les collimateurs, lança le représentant russe en levant les bras au plafond. Taylor a voulu ôter la vie, et vous, la pensée. Que cherchez-vous à faire? Ces mots furent accueillis par un vacarme d'approbation. Ce fut au tour du représentant britannique de s'exprimer. Il ne s'agit aujourd'hui que de proposer une motion, mais je suis confiant dans le fait que les gouvernements de tous les pays seront unanimes pour rejeter ce projet. Rien n'est plus pernicieux que la manipulation de la pensée. Pourquoi tout le monde devient-il si sensible à la simple mention de la manipulation de la pensée? Demanda Heinz. Celle-ci n'est-elle pas omniprésente dans nos sociétés modernes? Depuis les publicités commerciales jusqu'à la culture hollywoodienne, tout participe à manipuler la pensée.
Pour utiliser une expression chinoise, vous vous moquez de ceux qui reculent de 100 pas quand vous en reculez vous-même de 50.
Docteur Heinz, reprit le représentant américain, vous n'avez pas fait que 100 pas. Vous êtes arrivé au seuil de l'enfer. Vous menacez les fondements de la société moderne.
Un nouveau brouhaha retentit dans la salle. Heinz savait qu'il était temps de reprendre la situation en main. Il éleva la voix.
« Apprenez du bûcheron !»
Comme il l'avait prédit, cette dernière phrase étouffa temporairement le vacarme de voix.
« Quel bûcheron ?» demanda le président tournant du CDP.
« Je pense que vous connaissez tous cette histoire. Un jeune bûcheron marche dans la forêt. Soudain, une branche tombe d'un arbre et lui écrase la jambe. Il est parti seul et son sang n'arrête pas de couler. » S'il reste ainsi, il va mourir d'une hémorragie, mais il prend une décision qui ferait transpirer de honte tous les représentants de cette salle. Il saisit sa scie et tronçonne sa jambe écrasée. Il arrive enfin à regagner son véhicule et rejoint un hôpital où on lui sauve la vie.
Heinz constata avec satisfaction que personne dans l'assemblée n'avait essayé de lui couper la parole. Il poursuivit.
L'humanité fait aujourd'hui face à une question de vie ou de mort. La vie ou la mort de l'ensemble de notre espèce et de notre civilisation. Dans ces circonstances, comment ne pas accepter d'abandonner certaines choses ?
On entendit deux coups sourds, ceux du marteau en bois du président sur la table, et ce même si personne n'avait parlé. Tout le monde remarqua que cet Allemand avait été l'un des rares à être resté silencieux durant l'audience.
Le président s'exprima d'une voix calme. « Avant toute chose, je souhaiterais que chacun d'entre vous regarde la situation telle qu'elle est. Les investissements pour construire un système de défense planétaire sont de plus en plus lourds. En raison de la crise économique mondiale, la prédiction que le niveau de vie des humains reculera d'un siècle présente le risque de se réaliser dans un avenir proche. » Pendant ce temps, les recherches scientifiques de défense spatiale se heurtent à la muraille dressée par les intellectrons et le progrès technologique ralentit de jour en jour. Tout cela provoquera une nouvelle vague de défaitisme dans la communauté internationale et, cette fois, elle pourrait submerger le programme de défense du système solaire.
La prise de parole du président refroidit totalement l'assemblée. Il laissa le silence se poursuivre encore une demi-minute, puis il continua.
Comme chacun d'entre vous, quand j'ai appris l'existence du poinçonnage mental, j'ai ressenti la même peur et le même dégoût que si je m'étais retrouvé devant un serpent venimeux. Mais la chose la plus sage à présent est de faire preuve de sang-froid, de réfléchir consciencieusement à cette option. Quand bien même Satan arriverait sur Terre, le calme et la rationalité seraient toujours les meilleurs alliés. Durant cette audience, nous ne ferons que proposer une motion qui sera soumise à un vote.
Heinz perçut une lueur d'espoir.
Monsieur le Président, mesdames et messieurs les représentants, il semble manifestement que ma proposition initiale ne puisse pas être soumise à votre vote. Peut-être pourrions-nous chacun faire un pas en arrière. Peu importe comment vous reculez, le contrôle de la pensée est et restera une chose inacceptable. S'indigna la représentante française, mais sur un ton moins dur que tantôt. Et s'il ne s'agissait pas de contrôle de la pensée, quelque chose entre le contrôle et la liberté. Le poinçonnage mental équivaut à un contrôle de la pensée, affirma le représentant japonais. Pas vraiment. Ce qu'on appelle contrôle implique nécessairement un contrôleur et un contrôlé. Et si les hommes étaient volontaires pour être poinçonnés, appellerait-on encore cela un contrôle ?
L'assemblée retomba dans le silence. Heinz savait qu'il était déjà prêt de réussir.
« Je propose de faire du poinçonnage mental une sorte de service public, continua-t-il, ouvert à toute la société. La machine ne comporterait qu'une seule proposition, la croyance dans la victoire finale de l'humanité. Tous ceux qui le souhaitent pourraient subir ce poinçonnage et obtiendrait cette foi de façon totalement volontaire. Bien entendu, le processus serait soumis à une surveillance extrêmement stricte. »
Un débat s'ouvrit autour de cette suggestion. De nombreuses restrictions de l'utilisation du poinçonnage mental furent apportées à la proposition de Heinz.
L'une d'entre elles, capitale, fut de limiter son utilisation aux membres de l'armée spatiale, car c'était au sein des forces armées qu'une uniformisation de la pensée pouvait le mieux être acceptée. L'audience se prolongea pendant près de 8 heures. Ce fut la plus longue depuis le début du programme collimateur. Elle se termina par une motion qui serait soumise au vote des représentants lors de la séance suivante et rapportée auprès de chaque gouvernement par les représentants des membres permanents du CDP.
« Ne devrions-nous pas trouver un nom pour cette installation ?» demanda le représentant américain.
« Que pensez-vous de « Centre de secours de la foi » ?» osa le représentant britannique. Cette appellation étrange empreinte d'humour anglais suscita quelques rires.
« Supprimez ce cours et appelez-la « Centre de la foi », » proposa très sérieusement Heinz.
Une réplique miniature de la statue de la Liberté avait été érigée devant la grande porte du Centre de la foi. Personne n'aurait vraiment su dire quelle était son utilité. Peut-être était-ce une tentative d'insister sur le concept de « la liberté » pour atténuer celui de « contrôle ». Ce qui frappait davantage, c'était les vers gravés sur son socle. « Envoyez-moi vos désespérés, vos égarés, qui, assombris par la crainte, rêvent d'une lumière victorieuse. Envoyez-les-moi, les esprits fourvoyés, les âmes errantes. De ma torche, j'éclaire la foi d'or. » Et la profession de cette foi d'or évoquée par le poème était bien en évidence, incrustée en différentes langues sur un bloc de granit noir baptisé « Stèle de la foi » et qui se dressait derrière la statue. Dans la guerre de résistance contre l'envahisseur trisolarien, l'humanité sera victorieuse. L'ennemi sera détruit et la civilisation planétaire perdurera dans l'univers pour les siècles des siècles. Le centre de la foi était ouvert depuis 3 jours. Bill Heinz et Keiko Yamasugi patientaient dans le somptueux vestibule. Cette structure relativement modeste, bâtie à proximité de la place des Nations Unies, était devenue une attraction touristique et des foules de gens venaient sans cesse se prendre en photo devant la statue de la liberté et la stèle de la foi. Toutefois, personne n'entrait jamais. Les gens gardaient une distance prudente.
« Est-ce que tu n'as pas l'impression que nous sommes un vieux couple tenant une boutique au commerce déliquescent ?»
demanda Keiko. « Ma chérie, tôt ou tard, cet espace deviendra un lieu de pèlerinage, » répondit solennellement Heinz. L'après-midi du 3e jour, quelqu'un entra enfin dans le centre de la foi. C'était un homme entre 2 âges, chauve, qui semblait dépressif. Sa démarche était vacillante et des effluves d'alcool accompagnaient ses pas.
« Je veux obtenir une foi, » dit-il d'une voix pâteuse.
« Le centre de la foi n'est ouvert qu'aux membres des forces spatiales nationales. Veuillez présenter votre certificat d'identité, » dit Keiko Yamasugi en s'inclinant respectueusement. Heinz crut voir une de ces serveuses très polies des palaces de Tokyo. L'homme se tâta et sortit son certificat.
« Je suis un membre de l'armée spatiale. Je suis fonctionnaire civil. Est-ce que ça va ?»
Après avoir attentivement examiné le document, Heinz hocha la tête.
« Monsieur Wilson, souhaitez-vous entrer maintenant ?»«
Naturellement, » fit l'homme en hochant la tête.
Puis il sortit une feuille bien pliée de la poche de sa chemise.
« Voilà, c'est ma proposition, c'est écrit là. Voilà la foi que je veux obtenir. »
Keiko Yamasugi voulut lui expliquer que, conformément à la résolution du Conseil de défense planétaire, une seule proposition pouvait être poinçonnée dans les esprits, la profession de foi gravée sur la stèle. Aucun mot ne devait changer et toute autre proposition était bien sûr interdite. Mais Heinz l'arrêta délicatement. Il voulait d'abord lire la proposition de l'homme. Il déplia la feuille. Catherine, même, elle ne m'a jamais trompé. Keiko Yamasugi eut du mal à se retenir de rire. Heinz, en colère, froissa la feuille en boule et la jeta au visage de cet ivrogne à l'alcool triste.
« Foutez le camp !»
Après le départ de Wilson, un autre homme passa la stèle de la foi, cette borne frontière au-delà de laquelle les touristes venus prendre des photos ne s'aventuraient pas. Heinz remarqua vite que l'homme paraissait indécis et appela Keiko. «
Regarde celui-là. Il doit être militaire.
Il a l'air exténué, dit-elle.
Mais c'est un militaire, crois-moi, glissa Heinz. Il s'apprêtait à sortir à sa rencontre quand il le vit s'avancer jusqu'au perron. Il semblait un peu plus âgé que Wilson, ce que trahissait à peine la finesse de son visage oriental, mais, comme l'avait décrit Keiko, il avait l'air mélancolique. Toutefois, c'était une impression de dépression mélancolique différente de celle d'un amour déçu, à la fois plus légère mais aussi plus ancrée, comme si ce sentiment l'accompagnait depuis des années.
« Je m'appelle Wu Yu. Je viens pour obtenir une croyance, » commença l'homme.
Heinz nota qu'il avait utilisé le mot « croyance » et non « foi ». Keiko Yamasugi s'inclina et répéta sa tirade.
« Le centre de la foi n'est ouvert qu'aux membres des forces spatiales nationales. Veuillez présenter votre certificat d'identité. »
Wu Yu resta debout sans bouger et lâcha simplement « Il y a 16 ans, j'ai servi pendant un mois dans l'armée spatiale avant de me faire réformer. »«
Un mois ? Puis-je me permettre de vous en demander la raison ?» demanda Heinz.
« Je suis un défaitiste. Ma hiérarchie et moi-même avons considéré que j'étais inapte pour travailler dans l'armée spatiale. »
Le défaitisme est une mentalité répandue. Vous m'avez seulement l'air d'être un homme honnête. Vous avez peut-être tout bonnement exprimé à l'époque ce que vous aviez sur le cœur. Certains de vos collègues toujours en poste ont peut-être dissimulé des sentiments défaitistes encore plus puissants que les vôtres. C'est simplement qu'ils les gardent cachés,
le rassura Keiko.
Peut-être, mais ces derniers temps je me sens perdu.
Parce que vous n'êtes plus au service de l'armée?
Non. Répondit Wu Yu en secouant la tête. Je suis né dans une famille d'intellectuels. J'ai toujours été éduqué de telle manière à considérer l'humanité comme un tout, même après être devenu militaire. J'ai toujours pensé que se battre pour le salut de notre monde était le plus grand honneur d'un soldat. Ce moment est arrivé, mais c'est une guerre vouée à la défaite.
Heinz voulut parler, mais son épouse fut la plus prompte.
Permettez-moi de vous demander. « Quel âge avez-vous ? »
« 51 ans. »«
Si vous obtenez foi dans la victoire et qu'on vous autorise à revenir au sein de la spatiale, ne serez-vous pas un peu trop âgé pour reprendre du service ?»
Heinz pouvait voir qu'elle n'avait pas le cœur de lui opposer un refus catégorique. Un homme empreint d'une profonde mélancolie exerce toujours sur les femmes un charme certain. Mais Heinz ne s'en souciait guère. Celui-là était déjà si désespéré que rien à ses yeux n'avait plus de valeur.
« Vous vous trompez, » dit Wu Yu en secouant la tête.
« Je ne suis pas venu ici pour que vous infusiez en moi la foi dans la victoire, mais simplement pour que vous apaisiez mon âme. »
Heinz voulut prendre la parole, mais Keiko Yamasugi l'arrêta une nouvelle fois.
Wu Yu continua.
« J'ai connu mon épouse lors d'un séjour d'études à l'Académie navale d'Annapolis. C'était une fervente chrétienne, elle ne craignait pas l'avenir. » Elle avait en elle une telle confiance que j'en étais jaloux. Elle disait que Dieu orchestrait tout, le passé comme le futur, que nous autres, enfants du Tout-Puissant, n'avions pas besoin de comprendre ses desseins, qu'il nous suffisait de croire que son plan était le plus rationnel de l'univers, qu'il nous fallait simplement vivre en paix selon la volonté divine.
« Alors vous êtes venu ici pour croire en Dieu ?» demanda Heinz.
Wu Yu hocha la tête.
« J'ai écrit mon texte ici, » dit-il en plongeant sa main dans la poche de sa chemise. Keiko Yamasugi empêcha une nouvelle fois Heinz de prendre la parole et ajouta à l'adresse de Wu Yu,
« Si c'est le cas, vous n'avez qu'à croire. Il n'y a pas besoin de faire appel à un procédé technologique aussi extrême. »
L'ancien colonel de l'armée spatiale eut un sourire amer.
« J'ai reçu une éducation matérialiste. Je suis un athée pur et dur. »
Croyez-vous que ce soit si facile de se convertir ?
C'est hors de question,
s'empressa cette fois de dire Heinz, puis il décida de mettre les choses au clair au plus vite.
Vous devez savoir que selon la résolution de l'ONU, une seule proposition peut être poinçonnée mentalement.
Et tout en parlant, il sortit une grande chemise rouge délicatement ouvragée qu'il ouvrit pour montrer son contenu à Wu Yu. Sur la doublure en velours noir était ciselé en lettres d'or le serment de la stèle de la foi.
« Voici le livre de la foi. »
Puis Heinz sortit d'autres chemises de couleurs différentes.
« Ce sont les versions du livre dans plusieurs langues.
Monsieur Wu,
Je vais vous dire avec quelle rigueur est surveillée l'utilisation de notre machine. Pour s'assurer de la sécurité et de la fiabilité de la manœuvre, la proposition n'apparaît pas sur un écran, elle est lue de façon la plus élémentaire possible par le volontaire lui-même à partir du livre de la foi. Quant à la procédure concrète, conformément au principe de libre choix, elle doit elle aussi être activée par le volontaire. Celui-ci ouvre le livre, puis appuie sur un bouton pour lancer le poinçonnage. Mais avant que celui-ci ne débute, le système demande au volontaire de confirmer 3 fois. Avant chaque poinçonnage, le contenu du livre est relu par un comité d'une dizaine de délégués issus du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et des nations membres permanentes du Conseil de défense planétaire. Au cours de l'opération de poinçonnage, ce même comité procède à une supervision extrêmement stricte. Par conséquent, monsieur, votre requête n'a absolument aucune chance d'aboutir. Vous pouvez oublier votre projet de vous faire poinçonner une croyance religieuse. Le simple fait de changer un seul mot du livre de la foi constitue déjà un acte criminel. Dans ce cas, excusez-moi de vous avoir dérangé, lâcha Wu Yu en hochant la tête. De toute évidence, il semblait avoir anticipé cette issue. Il se retourna et partit, la silhouette solitaire et fatiguée. Il souffrira pendant le restant de sa vie, murmura Keiko, la voix pleine de tendresse.
Monsieur, cria Heinz à l'adresse de Wu Yu qui avait déjà passé la porte. Les rayons du soleil couchant se reflétaient sur la stèle de la foi et sur les lointains murs de verre du siège des Nations Unies, comme s'ils s'embrasaient.
Heinz dut cligner des yeux pour affronter ces flammes.
Monsieur, vous ne me croirez peut-être pas, mais j'ai bien failli faire le contraire de vous.
Wu Yu ne parut pas comprendre. Heinz se retourna et s'assura que Keiko ne l'avait pas suivi. Puis il sortit un morceau de papier de sa poche, il le déplia et le présenta à Wu Yu.
Voici le poinçonnage que j'avais à l'origine prévu pour moi. J'ai hésité, bien sûr, et j'ai finalement décidé de ne pas le faire.
Sur la feuille, il était écrit en caractères gras « Dieu est mort ».
« Pourquoi ?» demanda Wu Yu en levant la tête. « N'est-ce pas évident ? Dieu n'est-il pas déjà mort ? Au diable le plan de Dieu, au diable son aimable joue !»
Muet, Wu Yu observa Heinz un moment, puis il se retourna et descendit les marches du perron. Tandis que Wu Yu entrait dans l'ombre de la stèle, Heinz lui lança
« Monsieur, j'aimerais pouvoir dissimuler mon mépris à votre égard, mais je ne le peux pas !»
Le lendemain, Bill Heinz et Keiko Yamasugi accueillirent enfin ceux qu'ils attendaient. Sous le soleil radieux du matin, 4 individus entrèrent dans le centre de la foi, 3 hommes au visage européen et une femme asiatique. Jeunes, vigoureux et marchant d'un pas décidé, ils semblaient confiants et matures. Mais Heinz et Keiko reconnurent dans leurs yeux quelque chose de familier, une mélancolie et un égarement qu'ils avaient vus dans ceux de Wu Yu. Ils présentèrent d'eux-mêmes leur certificat à la réception et celui qui semblait être le chef de file annonça gravement « Nous sommes officiers dans l'armée spatiale et nous venons chercher la foi dans la victoire ». Le processus de poinçonnage mental fut extrêmement rapide. Le livre de la foi fut transmis aux membres du comité de surveillance qui relurent avec attention son contenu et signèrent l'autorisation de procéder à l'opération. Puis, toujours sous leur supervision, le premier volontaire prit le livre et alla s'asseoir sous le scanner du poinçonneur mental. Devant lui se trouvait un petit pupitre sur lequel il posa le livre. À sa droite, un bouton rouge. Il ouvrit le livre et une voix lui demanda « Êtes-vous sûr de bien vouloir obtenir la foi correspondant au contenu de cette proposition ? Si oui, pressez le bouton. Sinon, veuillez quitter la zone de scan. » La question fut répétée 3 reprises. Chaque fois que le volontaire pressa le bouton de confirmation, une petite lumière rouge s'éclaira. Le casque de poinçonnage descendit lentement et se positionna sur sa tête, la maintenant fermement. « L'opération de poinçonnage mental va commencer, » dit la voix. « Veuillez lire la proposition à voix basse, puis appuyer sur le bouton pour démarrer l'opération. » Le bouton, une fois pressé, émit une lumière verte et au bout d'une demi-minute environ,
la lumière s'éteignit et la voix informa que l'opération de poinçonnage mental était terminée. Le casque se retira et le volontaire put se lever et sortir. Lorsque les quatre officiers eurent terminé et qu'ils retournèrent dans le vestibule, Keiko Yamasugi étudia minutieusement leurs regards. Elle était sûre que ce n'était pas une illusion. Dans ces quatre paires d'yeux, la mélancolie et l'égarement s'étaient évaporés. Leurs regards étaient désormais aussi calmes que l'eau d'un étang. « Comment vous sentez-vous ? » leur demanda-t-elle en souriant. « Parfaitement bien, » lui répondit un jeune officier en lui rendant son sourire, « comme nous devons l'être. » Au moment où ils s'apprêtèrent à partir, la jeune Asiatique se retourna et ajouta « Docteur, je me sens bien. Je vous remercie. » À partir de cet instant précis, l'avenir était limpide, du moins dans l'esprit de ces quatre jeunes gens. À compter de ce jour, une foule incessante de membres des différentes forces spatiales du monde entier défila dans le centre de la foi, tout d'abord individuellement, puis bientôt en groupe plus important. Au début, les volontaires se rendaient au centre en civil, mais très vite, la plupart s'y présentèrent en uniforme. Lorsqu'arrivait un groupe de plus de 5 personnes, le comité de surveillance prenait le temps de les passer en revue individuellement pour s'assurer qu'aucun d'entre eux n'était venu sous la contrainte. Une semaine plus tard, plus d'une centaine de membres des forces spatiales avaient déjà obtenu foi dans la victoire grâce au poinçonnage mental. Leur grade allait du simple soldat de seconde classe jusqu'au senior colonel, le grade le plus élevé autorisé à faire usage de ce procédé. Une nuit, tandis que le clair de lune illuminait la stèle de la foi, Heinz dit à Keiko, « Ma chérie, nous devons partir. » « Dans le futur ?»« Oui. Nous ne sommes pas forcément plus compétents que les autres scientifiques travaillant sur la pensée. Nous avons fait ce que nous avions à faire. Nous avons mis en mouvement la roue de l'histoire. Allons l'attendre dans le futur. » « Loin ?»« Très loin, Keiko, très loin. » Jusqu'au jour où les sondes trisolariennes atteindront le système solaire. Avant d'entrer en hibernation, retournons quelque temps dans notre maison de Kyoto. Après tout, notre époque disparaîtra bientôt pour toujours. Bien sûr, ma chérie. Moi aussi, Kyoto me manque. 6 mois plus tard, Keiko Yamasugi s'apprêtait à entrer en hibernation. Elle baignait dans un froid aussi intense que ce jour, plus de 10 ans plus tôt, où Luoji avait sombré dans le lac givré. Cette température glaciale gelait en même temps qu'elle filtrait le tumulte de sa conscience. Le froid mettait de l'ordre dans ses pensées, et celles-ci apparurent lumineuses au milieu de l'obscurité glaciale et silencieuse. Brusquement, ses réflexions jadis opaques et voilées s'éclaircirent comme un ciel en plein hiver. Elle eut envie de crier pour interrompre le processus d'hibernation, mais il était trop tard. Un froid terrible s'était déjà insinué dans ses muscles et elle avait perdu la faculté de produire des sons. Les médecins et les techniciens d'hibernation virent qu'une petite fente s'était ouverte au niveau des yeux de cette patiente, révélant un regard plein d'effroi et de désespoir. Si la température n'avait pas gelé ses paupières, ses yeux auraient certainement été grands ouverts. Mais c'était une réaction nerveuse fréquente lors de l'opération d'hibernation qui avait déjà été constatée chez d'autres hibernés. Ils n'y prêtèrent donc aucune attention.